Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans toute une vie, à la découverte de vies en forme de portraits sonores d'hommes et de femmes qui ont marqué leur époque et les suivantes. Enfant de l'indépendance, il est de ceux qui interrogent le nouveau visage de l'Algérie. Militant pour les cultures et les langues berbères, il a payé de sa vie ses tournées de concerts dans les villages de Kabylie. La vie de Matou Blounès chante ces mots méprisés, érigés en armes de combat.
Pour moi, Matou Blounès, c'est François Villon, tout simplement. Et alors, qu'est-ce qu'il disait dans une de ses chansons, surtout une de ses chansons très, très rebelles, où il disait « Zerf l'ha, l'Algérie, c'est merveilleux. Walakin khossan, seulement il manque. Dirgazen, dirgazen, il manque des hommes. L'Algérie, c'est merveilleux, mais il manque des hommes. » Et cette façon de chanter, cette façon de déclamer des phrases dures, eh bien, cela nous touchait. On renaissait.
Je m'appelle Abder Halit, de Kabylie, voilà, de la région de Bini Doualap, de la même région un petit peu de Matou Blounès, quoi.
Où est-ce qu'on est ici?
Et on est à Milieu-Montant. Milieu-Montant, voilà, quartier très fréquenté par la communauté kabyle, les bars en face, les restaurants. Ouais. Donc on est un petit peu dans le contexte, quoi.
Matou Blounès, mythe berbère. Arnaud Contreras, Marie Placet.
Il y a des choses sur lesquelles on peut parler de sa musique. De très belles choses qu'il a faites, techniquement et conceptuellement, qu'on n'a jamais évoquées, parce qu'on parle tout le temps de Matou Blounès, le militant, le guerrier, bien sûr, son assassinat, évidemment. On ne parle pas du poète tendre, on ne parle pas de la fragilité de l'homme, on ne parle pas de l'artiste dans son génie.
Ok, quand vous voulez.
Matou Blounès, c'est d'abord un enfant de la guerre d'Algérie, ce qui naît en 1956 en Kabylie, au sein d'une famille où le papa est un émigré. Il vit en France, il y passera 30 ans avant de rentrer auprès de sa famille dans les années 70. Et c'est un fils sans père qui grandit comme l'homme de la famille, celui sur lequel s'appuie sa maman, celle qui doit gérer le quotidien. Et qui, dans cet espace, j'allais dire, de l'exil, va se constituer sa culture musicale, culturelle, intellectuelle, et va connaître cette Algérie post-coloniale qui va construire son mythe et qui va questionner très jeune, puisque la question berbère va éclore dans la tête du jeune Matoub. Et je pense que l'engagement de l'artiste plus tard que nous allons découvrir va s'inscrire dans ce contexte historique et, j'allais dire, social où les rapports de force, y compris géographiques en Algérie, vont se cristalliser autour de la question des cultures et langues berbères. Et il va être l'héritier d'une famille artistique et intellectuelle à la fois en Algérie et à la fois en France pour être cette grande voix de la chanson kabyle. Naïma Yahi, historienne. Mes travaux portent sur l'histoire culturelle des artistes algériens en France et plus largement de l'expression artistique de l'immigration.
الفنولي ويسمعين أطاني ثيولين الفوركوم يغلد سامرا والسنة غلفن السنين أتراجو في سين فساو أتهدر تاك أي زرو الغريب أحلين اكسف اللي الغيم الهود يطيش غلحار اللي الغيم انهود يطيش غل حار.
Je m'appelle Yala Sidiki, je suis docteur en lettres modernes et j'ai travaillé avec et sur Lounès Matoub.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques repères biographiques autour de la vie de Matoub Lounès?
C'est une vie romanesque. Il est né en 1956 dans un petit village de Kabylie qui s'appelle Thawrirt Moussa. Enfant, donc il était surtout élevé par sa grand-mère, sa mère et son grand-père. Et il a connu une enfance plutôt turbulente. Il avait un goût prononcé pour les défis, les rixes avec divers camarades. Il a quitté de façon un peu précoce le milieu scolaire. Néanmoins, il a très tôt porté en fait un intérêt très vif pour la poésie et pour la musique. Et il se trouve que dans sa famille paternelle, il y avait un musicien, Mohsmaïl Matoub, qui est connu dans la région. Il y avait aussi, du côté maternel, un oncle qui faisait de la poésie. Donc il était néanmoins plongé dans un environnement qui était celui de la Kabylie en général, un environnement dans lequel l'art de la poésie et de la musique étaient vraiment des formes sollicité de façon quotidienne, presque rituelle. Enfin, il faut signaler que sur la formation artistique de Lounès, il faut aussi citer la figure maternelle, Algia Matoub, qui était dotée d'une très belle voix, d'une voix puissante, dont on retrouve des éléments dans la façon dont Lounès interprète ses poèmes.
سوراق وحذيم قولي وذد نوفي في عمان شلخن تنسل محان رصيغي فرذي لخاليم الصحر يموم كران يسغان ولا شويثني الزان سنسل خند وزال قيلي.
Moi, je m'appelle Akhlidé, je suis un chanteur kabyle. Il faut dire qu'avant, on va revenir à l'origine de la musique. La musique kabyle avant, les hommes ne chantaient pas. C'était les femmes qui chantaient, on dit, et chantaient avec l'aïro, juste des mains. Les hommes, ils chantaient que dans les champs, c'était des paysans, comme les marins en Bretagne. Et les hommes, pour chanter, ils sont partis sur Alger. À Alger, on chantait. Comment est venu le chabu? Le chami qui chante Lounès Matoub super bien, à cette époque-là, il y avait des boîtes de jazz à Alger. C'était à l'époque de la France. Et la première chanson qui a fait que le chabi devient populaire, c'était une chanson pas du tout algérienne du tout. C'est une chanson brésilienne. Kissas, kissas, kissas. Olo, shahid layani, olé, ramham, dani. Bon, je ne sais pas chanter en arabe, hein. C'était la première chanson, la fusion. C'est là où est née la fusion de la chanson algérienne. C'est la première chanson qui était née parce que Mohamed Lanqa, il était à Alger. Mais Lanqa, c'est pas n'importe qui. Lanqa, c'est le maître absolu de la musique du Chabi. ils ont appris à improviser dans le shabi, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Avant, on chantait un couplet, un refrain. Mais le shabi, c'est du jazz. C'est-à-dire, on fait un refrain, un couplet, on peut partir dans l'improvisation. Des fois, ils partent. Il y a des chansons de l'Ankhaz, je crois, qui ont duré 5-6 heures. Il y a des chansons qui ont duré 14 heures. C'est que de l'improvisation. Pourtant, c'est une chanson. C'est ça qui a donné la richesse de l'Ounas Ma'atoub. Il a épuisé de ce puits-là, de ces... L'Ankhaz, il avait dit quelque chose de terrible, de super beau. Il avait dit la musique, il parlait de lui-même. Est un océan, moi, j'étais à cet océan, j'ai pris qu'un petit verre. Ça veut dire que je vous laisse plein de musique et plein de notes derrière. Et c'est de ce biberon qu'il a tété l'Ounas Ma'atoub. Au fait, l'Ounas Ma'atoub, je l'ai connu avant de venir en France. J'étais, il me dépasse de l'âge. C'était à Drail-Mizon. C'était en fait celui qui lui a donné des cours de guitare. Et qui me donnait des cours de guitare, c'est un enfant du quartier. Parce que bon, Ma'atoub l'Ounas, il a fait une école à Borj Mlaïn. Borj Mlaïn, c'est une ville. Il a fait une formation de mécanicien, je crois. Et c'était là où j'ai un copain qui était à cette formation avec lui. Très, très fort à la guitare et au football.
Et est-ce que, dans sa jeunesse, il écrivait déjà des textes politiques ?
Non, pas du tout.
Les textes de ses chansons, en fait.
Non, il chantait sur les immigrés, il chantait aussi sur la JSK. Mais même, parce que, en fait, le gouvernement algérien, on a un club comme Paris Saint-Germain ou Marseille ou autre. Ils nous ont enlevé le nom JSK, Jeunesse Sportive de la Kabylie. Ils ont fait la JET, Jeunesse Électronique de Tizi Ouzou, qui n'a rien à voir. Et lui, il a fait une chanson. Il a remis les choses en place. Et c'était là qu'il a montré sa première force, où le gouvernement commençait à le croire et à craindre, hein, l'Ounas Ma'atoub. L'Ounas Ma'atoub, je vais te dire quelque chose. Il a commencé à chanter l'exil au début. Enfin, sur les exilés, pardon. Il était en Algérie, sur les exilés. Ça prend l'une des premières chansons, Abdelrahman va me dire, Aïdal Douarev, c'est ça, hein. C'est l'une des premières. Venez, on va le rencontrer parce qu'il arrive, l'immigré. Voilà, on le voit arriver, l'immigré. Le visage qui reflète comme un miroir. C'est comme ça qu'il... En fait, c'est ça qu'il a chanté au début. Il n'était pas du tout dans la politique.
Yalla Sediki, à quel moment est-ce que l'Ounas Ma'atoub vient sur la scène?
Il a commencé très tôt à composer et on retrouve des titres de son adolescence, dont son premier, dont son deuxième album en 1978-1979. Donc il se trouve que dans sa région, au moins, s'il n'était pas connu dans toute la Kabylie, encore moins dans toute l'Algérie, il était au moins respecté comme jeune artiste dès l'âge de 16-17 ans par au moins des milliers de gens dans la région des Aïd Douala, la petite région dont fait partie son village d'origine.
الريغولي وذق فوسي وهمجن السكسك مدن الريغولي وذق فوسي وهمجن السكسك مدن أبي في قوج سق غسي وذير سميتي ورطن أبي في قوج سق غسي وذير سميتي ورطن ذلق سبين ثور حذ مصيو الثلاثين ورعب زمن تسقط شب ولترجيتي وسقل هالموتي تربو
sur les jaquettes de ses cassettes, Lounès Mahtoub se présente comme chevalier amazigh.
Alors, vous faites référence donc à l'un de ses premiers disques. C'est le disque Atsualir Atsualir, publié en 1981. Dans cette première jaquette que moi j'ai connue enfant et qui était extrêmement fascinante pour l'enfant que j'étais, j'imagine pour tous les jeunes enfants ou les adolescents qui découvraient cette jaquette en 1980. Donc on y voit Lounès Mahtoub sur un cheval allant secourir une jeune femme habillée en tenue traditionnelle et brandissant un livre sur lequel il y a des inscriptions en tifina. Et donc c'est une image, le symbole, cette femme symbolisant la civilisation amazigh, et Lounès Mahtoub arrive pour sauver cette civilisation. Cela peut paraître prétentieux en 1980, mais il se trouve que rétrospectivement, cette image qu'il a voulu donner de lui-même, en réalité, diffuse une grande part de vérité. Parce qu'il fait partie, à côté évidemment d'autres artistes, des militants très importants, il fait partie effectivement des gens qui ont réellement, contre vents et marées, pourrait-on dire, de façon triviale, qui ont maintenu l'exigence poétique, musicale, qui permettait de démontrer aux adversaires de cette civilisation la légitimité de cette civilisation, à travers le chant, à travers le poème notamment. Il se trouve que la poésie chantée a joué un rôle décisif, non seulement dans la préservation, mais aussi dans la promotion de cette culture, afin d'en faire non pas une culture muséale, non pas du folklore, mais une culture vivante qui peut aussi se projeter dans l'avenir. Et il est heureux que des grands artistes comme Lounès aient cette conscience aiguë qui lui a permis de préserver des vestiges de cette civilisation dans ses poèmes. Vous voyez, ce qu'on appelle le répertoire culturel, c'est-à-dire que l'univers que décrit Lounès dans ses poèmes d'amour, ses poèmes politiques, c'est un univers effectivement imaginatif qui n'existe plus tout à fait, mais grâce à ce travail autour de la récupération de fragments de contes, de rites, grâce à des figures comme celle qu'il utilise plusieurs fois, celle de Lanza, qui correspond en fait à c'est un spectre vengeur, c'est le spectre de celui qui a été injustement tué et qui revient hanter les vivants lorsque revient l'anniversaire de celui qui a été assassiné. Donc il y a, vous voyez, comme cela, des rencontres entre le mythe et la réalité historique qui sont tout de même assez fascinantes et qui, je pense, montrent réellement la richesse du travail de Lounès. Se fend le ciel et pâlit, la pluie a lavé la tombe, chaque fossé tonne, expire, les rigoles roulent à torrents, des dalles remontent un cri qui retentit, hélas, ô mes enfants. Dans le refrain, donc qui est interprété et qui est composé comme une berceuse, il dit ceci: Kenza, ô ma fille, ne pleure pas, en sacrifié nous tombons. Kenza, ô ma fille, ne pleure pas, en sacrifié nous tombons pour l'Algérie de demain. Kenza, ma fille, ne pleure pas. A Kenza illi urtsru yara, visflen nagri felzayruskia, a Kenza illi urtsru yara.
يشقي في سخيني الهوى تسر ذا عزكا يلثرقى ثرمية ثنقي يتسقي خنت ثغزا دوث مذلين تفغد ثغري صرار حب بها تروى دوث مذلين تفغد ثغري صرار حب وهذا رواب لكن زايلي صدر راسي المحلى في سفلا نغلي في الزير وزكا لكن زايلي ورتسرو.
Naïma, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les différents rapports de force qu'il y a pu y avoir entre, on va dire, le monde berbère, le monde kabyle et le gouvernement algérien entre 1956, année de naissance de Mahtoub Lounès, ou Lounès Mahtoub, on en parlera
Lounès,
après,
voilà.
Et aujourd'hui?
Cette crise berbère, elle va être une réalité au cœur de la guerre d'indépendance et elle va subsister quand l'un des pères fondateurs de cette Algérie post-coloniale, Aït Ahmed, va rompre avec Ben Bella et ses oppositions qui vont connaître, j'allais dire, des épisodes. Hein, quand Ben Bella va être chassé du pouvoir par Boumedienne en 65 et plus tard avec le printemps noir de 1980 et cette chape de plomb qui pèse sur les cultures kabyles et sa langue vont perdurer jusqu'à aujourd'hui avec, on se souvient par exemple des émeutes de 2001 et plus près de nous durant ce Hirak de 2019-2020, cette instrumentalisation des revendications culturelles kabyles au sein des revendications pour un accès à la démocratie en Algérie. Donc je vous le disais rapidement, Lounès Matoub fait partie de ces acteurs de la vie intellectuelle, politique et culturelle qui vont prendre position pour défendre les cultures et langues berbères et pour défendre une réelle démocratie en Algérie.
Naïma, est-ce que l'œuvre de Matoub Lounès suit ces événements? Est-ce qu'elle se forge avec ces événements? Est-ce qu'il illustre ces différentes périodes?
L'artiste est un artiste engagé. Matoub Lounès, c'est quelqu'un qui a eu à la fois une œuvre en tant que telle où il s'est exprimé et où il a, de manière un peu autodidacte, pris le mandol, pris la guitare, mais il a eu aussi à cœur de chroniquer et de dénoncer les soubresauts de la vie politique algérienne, y compris dans ce qu'il pouvait appeler les combines, les retournements de veste, et en tout cas cette épine dorsale qui était la sienne, de toujours défendre ses racines, son territoire, cette langue et culture kabyle qui lui tenait tant à cœur. Et je pense qu'il a été plus que d'autres, j'allais dire, soumis à la critique, soumis à la répression. Et la fin tragique de son assassinat, toujours pas aujourd'hui clairement déterminée, nous laisse penser effectivement qu'il participe tant de l'histoire artistique que de l'histoire politique de l'Algérie contemporaine.
في لور حضري في جيمون قزم بريدي ليسر سشفايا تكذي مطي سويسز وزهن الرقفي خاسكني قبل أن نزدر
Sa carrière couvre une vingtaine d'années, 1978-1998. Entre ces deux dates, surviennent des événements extrêmement importants et pour la Kabylie et pour l'Algérie dans son ensemble. C'est tout d'abord en 80 ce qu'on appelle Tefsouti Maziren, le printemps berbère, après l'annulation d'une conférence que devait tenir le grand écrivain Mouloud Mamri sur la poésie kabyle. Donc une révolte se déclenche, à laquelle ne participe pas Lounès Matoub parce qu'il se trouve qu'il est à Paris et qu'il doit faire son premier Olympia, mais à laquelle il participe, comme beaucoup de gens, en manifestant devant l'ambassade d'Algérie ou au Trocadéro.
Et sur scène, il est militant, en dehors de ses chansons, il est militant, c'est-à-dire il harangue les foules en leur disant « rebellez-vous ». Quelle est son attitude sur scène?
Ses poèmes sont déjà un acte. On est dans un pays où la censure, où le danger est si périlleux pour les gens qui contestent le régime, qui contestent l'arabo-islamisme, que de toute façon, le simple fait d'affirmer pendant une période son amazirité était déjà un défi, était déjà considéré comme un acte. Et je crois que cela se vérifie dans le cas de cette poésie chantée. Si elle a pu entretenir, je n'oserais pas dire la fierté d'être amazir, mais on va dire la conscience. Disons la conscience d'être amazir, d'être menacé d'extinction civilisationnelle, c'est la poésie chantée. Et à l'intérieur de cet ensemble qu'on appelle poésie chantée, c'est notamment la voix, le poème et le chant de Lounès Matoub. Par exemple, ici, il y a un extrait donc de l'album de 1984, Monsieur le Président. Il l'a écrit pour donc attirer l'attention de la population sur le sort qui était réservé aux prisonniers politiques, parmi lesquels Mohamed Haroun, qui était condamné à mort après donc les attentats qu'ils avaient faits en début d'année 1976, devant en fait le journal El Mujahed à l'époque, pour la défense de Thamazirt. Ici, c'est l'ouverture du texte. Le jour où je naquis fut jour maudit, dans la main serrant un nouet de tourments, afin qu'il ne m'abandonne jamais. Si mon cœur était une jeune pousse, au brasier je l'aurais jeté, afin de ne plus l'écouter. Or, de mon corps il a fait son abri, force m'est de le nourrir de songes, puisque lui m'a ravi le sommeil.
ذقف سيد شمس أغلى الهموم لكن ورثت خير مرامة لو كانوا لي وذاج الطوم هذي جرغ داخل الجنون لكن ورثت حسي صغر أغلى يمس الصورة وجوم لابد أزد جاف غنون يمر دي سجان رغم خلص غوني نورد وغاو كسمينا ولانيو لمح مينا كل سرماو لمح مثل جري غسيو وقبل درس المثيو هاين ياكو يجمع وليو السيل سيوا في نظماو السيل سيوا في نظماو مرسل غد سنسراو في العذن بدا غروان سغا كون غفراو هاينا ولانا عزيزان في ذاكات مران بالدغ خاش تمشيك تمر وهمغ ماشي ذو ذمسي روحغ هاد مليل متولن وين هاد مليل متولن وين سوك نوذي ديال تعقل امي نادي الورث الليم فام الطوثي والحلال ويسن كان مثم كثير هذا سن صخر بغل شغال هذا سن يعرق ووال فقرى من ميعقل تدر تدعجل غريب تدر تدعجل غريب هيا جيك ذا سيرم تركثي والظل رام تدري زمان يسم يفجي الحرز دلوفاو تبر في الحبس في الزم في الاسنى ورقتي وتوشم دورة الدنيا تصجم طول عمار يتمر كام طول عمار يتمر كام
Monsieur le Président, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné étancheront peut-être la soif de certains individus opprimés. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. D'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, mystique, juridique, politique de la patrie. Les masses populaires de tous les pays aiment profondément leur patrie. Mais c'est un amour réel, naturel, pas une idée infaite. Et c'est pour cela que je me sens franchement le patriote de toutes les patries opprimées.
Masmatoub était la différence par rapport à l'Anka, par rapport à tous les autres chanteurs algériens. Il a quelque chose de prophétique, parce que même quand il part, c'était pas la chanson. La chanson, c'est sûr. C'est-à-dire, on n'a rien à dire ça sur ça, c'est parfait, 100%. Même quand il parle, la réplique. Il a répondu à des gens qu'il n'aimait pas ou qu'il aime, avec de la chanson. C'est terrible. Il a descendu des gens, rien qu'en chantant. Et ça, c'est pas évident. Il y a des gens, ils étaient hauts, ils étaient hypocrites, ils étaient méchants, on va dire ça comme... Et il les a descendus dans une seule chanson, il les a remis à zéro. Ça, c'était sa force. Parce que le gouvernement jusqu'ici, algérien, il y a eu des chanteurs engagés, mais ils n'ont jamais ce que dire. Mais Lounès Martoub, il a fait trembler l'Algérie quand même. Il a fait trembler parce que sa voix, elle a traversé la Kabylie. Elle a été chez tous les Amazigh en Afrique du Nord. C'est-à-dire, ça a été au Maroc. Ça commençait à devenir quelque chose de très, très, très sérieux. Et surtout que, voilà, comme j'ai dit, il y a une certaine poésie qui sortait de certains mots, on peut pas les écrire, ces mots-là. On peut pas les penser. Ça sort pas. C'est prophétique. C'est un messie, voilà. Pour moi, Lounès Martoub, c'est un messie. Ce que dire, on peut pas parler d'un chanteur engagé. C'est immense dans la tête des Kabyles quand on reçoit chaque expression de Martoub Lounès dans chaque chanson, chaque mot, chaque métaphore, c'est comme un coup de poing de Mohamed Ali. Ça pèse plus de 100 kilos qu'on reçoit dans la tête.
Dans le cadre de vos recherches autour de l'histoire de l'immigration et plus particulièrement des biais culturels, des expressions culturelles de l'immigration maghrébine. Comment est-ce qu'il s'inscrit, Matoub Lounès ? Est-ce qu'il a une place à part ?
Une place à part, c'est peut-être un mot un peu fort. Il a une place singulière au sein d'une communauté. C'est-à-dire que lui, il s'adosse à une vie culturelle et musicale assez en place. Quand il arrive à la fin des années 70, ce qu'on appelle les chanteurs de l'exil, ou même les créateurs de la chanson kabyle moderne que sont Slimane Azem et plus tard les chanteuses comme Hnifa ou Shrifa vont lui ouvrir, j'allais dire, une vie artistique qu'il n'avait pas la possibilité de mettre en place en Algérie. Précédemment, un Idir ou un Louni Saïd Mengelet, pour une génération plus jeune, avait aussi connu le succès Olympia de 1980
en émigration
et sur les grandes scènes parisiennes. Ses premiers grands concerts, son Olympia de 1980, sont un tournant dans sa carrière. La reconnaissance en France hexagonale avait un poids considérable sur le succès en Algérie. C'était un artiste reconnu, mais le coup de boost, si j'ose dire, il a été à partir de la France. Cet âge des émigrations algériennes vers l'hexagone, à l'époque coloniale, et ensuite à l'époque post-coloniale, font que ce pays de l'entre-deux, qui est cette communauté franco-algérienne, a offert l'espace à l'artiste qui s'inscrit dans les pas de ses prédécesseurs. Et je pense que dans une séquence singulière, hein, on parlait de la question particulièrement kabyle au sein de la chanson de l'exil, puisqu'on va parler du répertoire, je pense que cette présence importante des Kabyles en France hexagonale, leur tradition artistique forte, le public qui reçoit cette musique et qui le porte, ces artistes, a été un tremplin formidable pour Matoub Lounès. Et aujourd'hui encore, sur la dimension patrimoniale, la communauté franco-algérienne, puisqu'aujourd'hui beaucoup sont français et héritiers de l'immigration, représente un socle important et incontournable dans la mémoire et le patrimoine que constituent Matoub Lounès et son répertoire.
Est-ce qu'il y consacre des textes particuliers à cette période de rencontre, on va dire, d'immigration, même si c'est pas vraiment une immigration, c'est plus des séjours longs.
C'est pas son thème. L'exil, c'est pas son thème, mais il apporte une forme de baume au cœur aux Algériens de France. Il leur donne des nouvelles du pays. Il s'inscrit dans leur combat. L'Académie berbère est une structure qui est très ancienne. Les militants pour la cause berbère sont très anciennement en plein implanté en France, et lui s'inscrit dans cet héritage. Et c'est en cela qu'il appartient aussi à l'histoire de l'immigration. Sur, j'allais dire, je vous parlais de la généalogie des mouvements nationalistes de l'entre-deux-guerres en France, à l'époque coloniale, il est consciemment ou inconsciemment héritier et perpétuateur de ces mobilisations en faveur de la défense et de la valorisation des cultures kabyles et berbères en général.
عطاس هذه يصبرني تشهير وتتفن السيني مسال يصال إذن فليد يستمسن أسمي سقارن دي طولا يتشكل طب يقبض واس في يستسفن ورد يزدلن هيا دل شكوات شهبا تلاشي مالي دمن دي وكنا تفنن وإذ سقارنا السلبا
Un mec déjà qui n'a jamais eu de salle, il chantait dans les stades. On annonce comme ça, comme une rumeur, un gala au stade du Kilramnan, les étudiants, à midi, et tout le monde se dit, j'y vais aller, on ne sait jamais. Même si on n'est pas sûr. Et si c'est vrai, donc on n'aimerait pas le rater. Donc on y va. Et souvent, c'est parce que les gens se sont déplacés qu'il est obligé d'assumer la rumeur, qu'il est obligé de venir chanter. Et c'était comme ça, réellement. Ah non, mais oui, non, j'invente pas, c'est ce que j'ai vécu moi-même quand j'étais étudiant. On mange à midi au resto, et Paris et Lounès. Où ça? Au Kilramnan. Au Kilramnan, en fait, c'est l'ancien stade de la GSK, donc comme il n'était pas vraiment protégé, les étudiants, une fois dedans, ni la police, ni rien, ne peuvent nous mettre dehors, donc on se l'appropriait voilà, à notre guise. Et ça se passait tout le temps comme ça. Et vous avez des camions, des gens du village qui descendent. Il va chanter où? Ils entendent une rumeur, mais le truc, c'est qu'on ne va pas le rater. Moi-même, les 3 ou 4 fois que je l'ai vu au stade, ça s'est passé comme ça. Parce qu'il n'y a pas d'affiche. Il allait vers son public et dans une journée, il faisait toute la Kabylie. Il va à la rencontre des gens, c'est ça d'ailleurs, le lien charnel. Il avait un lien charnel, c'est pas une idole. C'est pas une idole qu'on voit juste à travers des nouvelles, une star, non. Il était réellement proche des gens, il va à leur rencontre. Il n'y a pas, dans une journée, il peut faire jusqu'à 20 villages. Prendre un café ici et terminer dans une soirée qui n'était même pas prévue avec des gens qu'il n'a pas connus 24 heures avant. Donc c'est comme ça qu'il a réussi à exister, à être porté par le public. D'ailleurs, tout le monde peut écrire un livre sur Lounès, pour peu qu'on l'ait croisé une demi-heure de sa vie.
يلهم غوري قصد عفان يهم جد جير النور همي شكر زوي غموس.
Lors de la révolte de 1988, il est en fait victime d'une tentative d'assassinat par un gendarme. Il est en train, sur la route de Michelet en Kabylie, de distribuer des tracts avec un étudiant, Massine Ferkel, qui est encore lui aussi en activité militante très intense ici à Paris. Il distribue des tracts. Leur voiture est poursuivie par une voiture de gendarmerie. Ils sont interpellés. Et alors que Lounès demande des comptes au gendarme, le gendarme lui tire une rafale de Kalachnikov et le laisse pense-t-il, pour mort. Ils vont le déposer à l'hôpital de Michelet en disant « prenez votre fils de chienne ». Il survit à cet attentat extrêmement extrêmement grave après de multiples opérations chirurgicales, d'abord dans la région de Kabylie, ensuite à Alger et enfin à l'hôpital Beaujon. Il se remet très très difficilement de ses blessures parce qu'il portera des séquelles à vie, dont une mutilation sur l'une de ses jambes. Il est enlevé en 1994 par un groupe armé. Alors évidemment, il y a, comme toujours pour toutes les affaires de cette importance en Algérie, des doutes sur les commanditaires réels de cet enlèvement. S'agit-il d'islamistes ? S'agit-il d'islamistes manipulés ? S'agit-il de groupes armés obéissant à des clans occultes du pouvoir algérien ? Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas d'éléments qui peuvent soutenir de façon rigoureuse une vérité sur cet enlèvement. Au terme de 15 jours... il est libéré après une mobilisation très forte de la population en Kabylie, des centaines de milliers de personnes qui manifestent pour demander, exiger sa libération. Donc il sort miraculeusement de cet enlèvement. Survient ensuite un élément, je dirais, à la fois personnel et politique, c'est que certaines personnalités publiques très influentes en Kabylie accusent à moitié Lounès Matoub d'avoir participé à son propre enlèvement. Donc il en est meurtri, lui qui a toujours mis en jeu son intégrité politique et qui a toujours tenté de démontrer qu'il agissait avec la plus grande intégrité, la plus grande honnêteté par rapport à son public et par rapport au combat qu'il avait engagé pour notamment la défense de la culture amazigh et plus largement pour l'émancipation de son peuple. Donc c'est un événement qui va le meurtrir. Et il se trouve que à l'époque je le fréquentais, je me souviens qu'il m'a dit il a tenu ce propos qui est rétrospectivement effrayant. Il m'a dit: je vais retourner là-bas, ils vont m'assassiner et comme cela je vais démontrer à tout le monde que je ne me suis pas enlevé.
Matoub Lounès a traversé le miroir ou le plafond de verre médiatique, puisque du fait de ses engagements politiques et aussi des faits divers qui vont le caractériser, par exemple son enlèvement en 1994 et plus tard son assassinat, le grand public français le découvre. La presse engagée ou de gauche, on va dire, on fait le portrait, parle de ses combats, relaie ses engagements. Donc la France découvre Matoub Lounès à l'occasion malheureusement de son enlèvement et aussi de la guerre civile algérienne qui va aussi ensanglanter la France, qui va subir un certain nombre de prises d'otages et d'attentats autour de 1994-1995. Et on cherche à comprendre en France ce qui se passe en Algérie du fait bien sûr de la relation privilégiée et singulière que la France entretient avec l'Algérie, et aussi du fait de sa communauté franco-algérienne. Et lui va faire partie de ces figures algériennes auxquelles on va s'intéresser, contrairement aux chanteurs de l'exil des années 70, par exemple, si on prend ce cas de figure-là. Et on s'intéresse davantage à l'homme engagé qu'à l'artiste. Les Français ne se mettent pas à écouter du Matoub Lounès. Par contre, ils lisent son ouvrage, ils l'écoutent, il est longuement interviewé sur la situation algérienne. Donc il devient un passeur des combats politiques portés par les Algériens dans ce contexte macabre des années noires. Et cette fulgurante présence médiatique jusqu'à son assassinat fait que on s'est intéressé à l'Algérie à travers des figures comme Matoub Lounès, parce que c'est avant tout un chanteur algérien, même s'il défendait la culture et la langue kabyle, c'était un artiste algérien qui se revendiquait comme tel et qui participait aux affaires du pays en chroniquant sa vie politique et sociétale. Et je pense qu'il ne faut pas enfermer ou caricaturer l'artiste. Ses combats, ses engagements n'empêchaient pas son appartenance et sa volonté d'appartenir à un territoire, une tradition... à une famille artistique qui s'exprimait en arabe, avec d'autres répertoires. Ici en France, on connaît le raï, mais il y a d'autres répertoires. Et vraiment, on est sur ces problématiques-là.
Le combat pour sa culture berbère, sa langue et sa différence, il le poursuivra toujours, même si le 26 septembre, il a été enlevé et séquestré durant 15 jours. Un enfer qui ne peut altérer son espoir de connaître un jour une Algérie démocratique.
Voilà, Lounès Matoub qui est avec nous. Je précise que Lounès, c'est votre prénom et Matoub, votre nom. On peut le prononcer de manière différente.
C'est pareil. Lounès, c'est le prénom. Voilà. Matoub, c'est le nom.
On peut dire que vous êtes un miraculé. Vous avez passé plus de 15 jours en détention après avoir été quasi condamné à mort.
Malheureusement. Mais avant tout, je tiens à rendre un vibrant hommage à toutes les familles des victimes, soit algériennes ou internationales ou étrangères. Ainsi qu'à tous les gens qui m'ont soutenu de près ou de loin pendant cette dure épreuve.
Vous avez pensé mourir vous-même ?
Tout le temps, il y avait l'ombre de la mort qui planait au-dessus de ma tête, malheureusement.
Ils vous ont quand même relâché, à votre avis, pour quelle raison ?
Ils m'ont relâché. Ce n'est qu'après que je l'ai su, parce que j'ai été coupé du monde extérieur. Ils m'ont relâché grâce à cet appui, à cette énorme solidarité. Soit en Algérie ou dans le monde entier.
Et vos chansons ont un message pour vous, un message politique ?
C'est ma chanson a été toujours, malheureusement ces derniers temps j'ai été appelé à me battre sur deux fronts. Je me bats contre le pouvoir et contre les intégristes. Parce que ce qui arrive en Algérie aujourd'hui risque de contaminer tous les autres pays. À commencer par le Maroc ou la Tunisie et ainsi de suite. Donc c'est la décadence, c'est l'escalade de l'horreur. En même temps.
Et vous n'avez pas envie de renoncer à ce combat, bien sachant que vous êtes menacé en permanence. J'imagine que quand vous livrez une déclaration comme celle que vous faites ce soir, vous savez que vous êtes regardé.
C'est sûr. Mais je pense que mon combat est noble. Il est juste. Mourir pour cette noble cause ne sera pas un sacrifice en vain. Donc je continuerai à me battre. Davantage encore.
اسمي دستق السادة هنا نرد سيل حرام من النياس أقل غلباس نروى الخير ظل فاركا ورغي خوص ورام ذيك ساين تسوي بواس ستوال نغلق بلام أما كنسينا غادي وذوب بحر انتساس الله أكبر شمثي جاذ النظام في الاسماء تبضض سيفري خاس يرير فغليد محمد اكيد يسلجان حذر دايد دي صريم أقارك لسيدي مي ويدنك السوسونا
Moi je pense que je ne peux pas être un ennemi de Dieu. Moi je suis un auteur-compositeur, je chante. J'essaie d'être juste, j'essaie de voir la réalité en face de moi. Mes parents peut-être sont musulmans, mais moi je ne me sens pas musulman. Je suis un laïc et je crois que la laïcité elle s'explique. Ce n'est pas l'athéisme la laïcité. La laïcité c'est dissocier la religion de l'État. Et une chose est très importante. Il est grand temps en Algérie qu'on évacue la religion du champ politique.
كذا قرك تلقاه
السمع حسرة أمس لكاني سيدي الشيخي
Bonsoir. Le combat pour la démocratie en Algérie a perdu aujourd'hui l'un de ses plus vaillants combattants. Lounès Matoub a été assassiné cet après-midi dans son village natal près de Tizi Ouzou. Lounès Matoub était le plus célèbre des chanteurs kabyles. Il était à la fois l'ennemi des islamistes et l'ennemi du pouvoir algérien, ce qui lui avait valu de se faire enlever en 1994 par le GIA avant d'être relâché 15 jours plus tard. Il s'était alors réfugié à Paris, mais récemment, ne supportant plus l'exil en France, il était rentré chez lui en Kabylie. C'est là qu'il a été assassiné cet après-midi. Je vous le disais, Lounès Matoub avait pris récemment la décision de revenir en Kabylie malgré le risque. Et il s'était expliqué sur ce choix dans une interview à nos confrères de la RTBF diffusée dans l'émission Le Choix d'Inter. Lounès Matoub n'arrivait pas à vivre ailleurs que chez lui.
On ne peut pas condamner les gens qui sont partis. On ne peut pas condamner. Quand on a peur, on a peur. Moi aussi, j'étais parti à un moment donné. Mais j'ai vu que je ne pouvais pas m'intégrer. Je n'arrive pas à me détacher de ma Kabylie, de mon public. Je me sens bien, c'est moi, avoir de paix, quoique c'est difficile, quoique j'ai peur, il y a la peur au quotidien. J'ai mis une sirène, j'ai mes propres armes qui ne sont même pas données par l'autorité. J'ai fait rentrer des armes en tant que chanteur, vous vous rendez compte, j'ai fait un truc où je risquais ma peau. J'ai pris ma voiture, j'ai défoncé le réservoir de ma voiture et j'ai mis des armes dedans pour me défendre. Je les ai ramenées pour ma propre sécurité parce que l'État ne m'a pas donné d'armes.
Je voudrais vous faire entendre une réaction ce soir à l'annonce de l'assassinat de Lounès Matoub. C'est la réaction de sa sœur, Malika Natoub, que Samuel Benichou vient de joindre au téléphone.
Ils le tueront jamais. Il restera gravé dans les mémoires des gens. Et Lounès, c'est pas seulement mon frère à moi. C'est le fils du peuple, et il l'a toujours dit. Il appartient à tous les Algériens, et c'est quelqu'un qui défend une cause noble et juste. Et donc, il n'est pas mort. C'est ses paroles qui parleront pour lui.
Ses admirateurs criaient à l'époque « pouvoir assassin ». Il est évidemment encore aujourd'hui impossible d'identifier les auteurs réels et les commanditaires réels de cet assassinat. Il y a des scénarios évidemment vraisemblable sur les gens qui ont voulu tuer Lounès, mais il n'est pas possible de dire que cette hypothèse doit primer sur telle autre.
On a commémoré cette année le 20e anniversaire de sa disparition, de son assassinat. Aujourd'hui, il est célébré, et même si ceux qui lui rendent hommage ne sont pas tous d'accord sur leur Matoub Lounès, ils sont tous d'accord, en tout cas, pour souligner la dimension assez centrale dans la tradition de la chanson engagée algérienne et de la persistance et de la transmission de son répertoire. Aujourd'hui, il est repris par des artistes comme Moussa Hakim sur scène, qui sont des artistes franco-algériens. Il est chanté et célébré en Algérie. C'est pas un artiste oublié. Son répertoire est bien vivant et la mémoire concernant l'artiste est bien vivante.
En France aussi ?
En France, beaucoup. Beaucoup parce que quand on parle des Algériens en France, on parle de plus de 2 millions de personnes, surtout au sein de la communauté berbérophone. Il a supporté, je pense, des revendications qui sont encore vivaces en termes de démocratie, de défense de la culture kabyle et de sa langue.
Avant, il n'y avait rien. C'est vrai que Lounès Matoub est arrivé. C'est un éclat. Il a libéré la parole. Il a libéré, c'est-à-dire les vieilles, les enfants, la jeunesse, étudiants, ouvriers. Tout le monde s'est mis à commencer à parler.
Tu peux, par exemple, nous montrer une chanson de Matoub qui t'a influencé et qui parle justement de cette simplicité.
Moi, j'aime bien une chanson de lui, beaucoup, que tout le monde chante d'ailleurs. C'est une chanson populaire. Qui parle de la Kabylie, mais il a mis un rythme positif derrière là où il est la joie et que les gens aiment, et que les gens, parce qu'elle est vraiment très positive cette chanson.
Attends, il faut que je retrouve un peu ma voix.
عيطي زرجر غلين سشباح انور نيد نفرار قاسك اسقنت شحانين اي ذرير قريد ورير عيطي زرجر غلين سشباح انور نيد نفرار قاسك اسقنت شحانين مدر ضحار اسما يقار فما زلت تسلتنا بيون صومنا
Ce genre de personnes, c'est des centrales nucléaires. Vous le côtoyez, vous irradiez. Donc, on ne peut pas prendre la distance. Toutes les personnes qui témoignent de l'Ounès, il y a une bonne part de subjectivité. Ils parlent de leur l'Ounès. Donc, c'est compliqué. C'est l'Ounès, quoi. C'est compliqué.
الثمور في ذبلاوان غسلق نصف أبو ذميم جرجار ذلور سيوان أي مازيغ ذراويم أرقمنا غمر ياسن ويذك يلن ذي ذونيم أرقمنا غمر ياسن ويذك يلن ذي ذونيم يلللللو يلللللل
Matou Blounès, mythe berbère. Avec Naïma Yahi, Yalla Sediki, Abder Halit, Aklidé, Majid Deschansonnier. Attaché de production Daphné Abgral, prise de son Eric Audra, mixage Eric Boisset, coordination Christine Bernard, réalisation Marie Placet. Merci à Tamila Atali, Serge Kalka, Hakim Amadouche et aux chansonniers. Un documentaire d'Arnaud Contreras pour toute une vie France Culture.
C'était Toute une vie, une émission proposée par Anaïs Quien avec Sylvia Favre. Podcast, réécoute et bonus à retrouver sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr.
France Culture, l'esprit d'ouverture.